Allez, c'est parti pour les pronos NFL Week. On est week combien, Scooby?
On va être là week 6.
Week 6 à ne pas confondre avec la 8-6, qui est quelque chose qui permet de voir certains matchs un peu plus durs à regarder. Voilà. NFL Game Pass, petit cadeau pour tout le monde. Ils arrêtent pas de nous rendre du fric, le Game Pass, cette année. Bon, alors, savoir qu'ils ont changé, ils avaient un prestataire avant, et la NFL, ils ont essayé de tout faire tout seul. Et du coup, bah, ça galère un peu, apparemment. Enfin, moi, j'ai pas trop vu. Même si je regrette beaucoup le manque d'archives plus vieilles qu'il y avait avant. Mais voilà. Mais en gros, ils galèrent comme des porcs. Et donc, là, ils viennent dire, on rend 20%. Donc là, ils vont nous renvoyer 40 balles. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Bonne rentrée, comme ça. Scooby, comment ça va?
Ouais, ça va, mais du coup, comme tu gagnes de l'argent, c'est quand que tu nous payes?
Comment? Ah non, mais je double tous les salaires ce mois-ci grâce à ça.
Ouais, bah 0 x 2, ça va faire 0 tous les jours.
Génial, il est bon en maths en plus, quel artiste. Quand est-ce que je vous paye? Jamais. Enfin, quand j'arrive à me payer moi, on va dire. C'est pas mal ça. Mais bon, c'est pas. T'as remarqué les écrans pubs dans l'émission?
Avant toi, mais c'est pas grave.
Comment?
Enfin, pour toi, mais en général, tu vois, on dit toujours qu'il faut donner aux autres avant de se donner soi-même.
Non, mais attends, quand t'entends. Non, en fait, t'as le droit de me poser cette question-là quand tu commences à entendre des écrans pubs dans l'émission.
Ah, ok.
Voilà, ça veut dire que C'est-à-dire que quelqu'un nous donne de l'argent ou des cadeaux, et dans ce cas-là, je partage.
Pourtant, on dit beaucoup seulement NFL, c'est quand qui nous paye la NFL.
Arrête, la NFL, s'ils savent qu'on existe, t'as pas remarqué qu'avant tous les matchs, ils disent vous avez pas le droit de parler des matchs, de prendre des photos de l'écran. La NFL, s'ils savent qu'on existe, ils vont nous brûler ou nous envoyer en procès, tu rigoles quoi. Non, attends, on cherche pas les ennuis. Scooby, on est pressé parce qu'il y en a d'autres qui attendent de Portillon qui sont encore aussi pressés que toi. Et pourquoi t'es à la bourre là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Pourquoi t'es pressé?
Pourquoi vouloir être en premier?
Oui.
Parce que Scooby sort.
Ah, Scooby va boire de l'alcool avec ses amis.
Je ne bois pas, mais.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ah, je t'assure que je ne bois pas.
Ouais, tu dis ça parce que t'as la radio et que c'est enregistré.
Ah, mais je suis un athlète, je ne bois pas, je ne suis pas corps sain esprit sain, on connaît tous.
Ouais, on a bien vu les fameux athlètes qui boivent pas, ouais. Bon, Scooby, le fil rouge du soir, c'est quelle équipe marquera le plus de touchdowns cette semaine?
Ben, je vais dire les Houston.
Les Houston?
Les Houston, ouais. De Texan.
Merde, l'ancien fil rouge, je sais pas qui a gagné, donc je l'annule, voilà, hop. Les Houston Texans, ok, on t'écoute.
Un fil rouge, je peux te dire, c'est qui est le... Quel est le quarterback aura le meilleur passer rating, et c'était Tom Brady.
Non, ça on l'a déjà fait, ça c'était celui d'après avec les équipes vaincues et machin, les totos là. Et je sais plus.
Oui, merde.
Il y a juste des chiffres écrits sur mon tableau, mais je sais plus c'est à quoi ça correspond. Donc, tu as toujours ton point, grâce à Brady, ou je sais plus quoi d'autre. Et tu as parié Houston, c'est à toi, Scooby.
Donc moi, j'ai parlé d'un match qui, avant la saison régulière, paraissait ennuyant à mourir. Mais cette année, c'est tout autre chose, parce que ce match-là va être très intéressant à regarder. Je parle du match entre les Jacksonville Jaguars, premier de la NFC Sud, alors ça fait bizarre de dire, et les Los Angeles Rams, qui sont, si je ne m'abuse, premier pour... Non, ils sont deuxième, premier. Bref. Donc c'est deux matchs très intéressants pour plusieurs raisons, c'est deux équipes qui trouvaient des nouvelles.
Fais gaffe, tu passes sous un tunnel, là.
Attends. C'est bon, je suis sorti du tunnel ou pas?
Comment?
Moi, je m'entends bien, hein.
Ouais, non, mais ouais, là, on t'entend mieux.
Ouais, alors les Los Angeles Rams qui ont une nouvelle dynamique sur ton attaque, alors que c'était une catastrophe l'an dernier, jusqu'à la week 4, si je ne m'abuse, c'était l'équipe qui a marqué le plus de points. Bon, même si la semaine dernière, ils ont toujours eu un petit pépin face aux Seahawks qui ont un peu regonflé leur défense, mais ils ont réussi à tenir, enfin, ils n'ont pas été nuls, on peut pas tout dénigrer ce qu'ils ont fait depuis le début. Ils ont quand même une attaque très explosive, une des meilleures attaques une très bonne attaque à la course, avec notamment Todd Gurley qui explose encore. On l'avait pas vu comme ça depuis cette saison rookie. On a une super attaque aérienne avec Jared Goff qui est incroyable. Pour moi, c'est vraiment le breakout player. C'est sûr que l'an dernier, il était promu du show draft. Il n'était pas bon, il était benché. C'était très compliqué quoi pour lui. Il y a plein de quarterbacks qui ont starté avant lui. Vraiment. Et là, cette année, vraiment, il explose. Enfin, il menace bien le ballon, il fait un bon travail. Avec une bonne attaque aérienne, je pense surtout aux nouveaux qui ont Cooper Coupe, où il y a eu un débat pour savoir s'il ressemble à Wes Welker ou non. Sammy Watkins, qui il fluctue en fonction, et ça me fait chier parce qu'il a ma fantasy. Du coup, quand je le starte pas, il joue bien, et quand je le starte, il fait de la merde. Ensuite, j'ai Robert Woods. Il y a Robert Woods. Voilà, donc il y a vraiment une nouvelle dynamique. On n'oublie pas Andrew, l'ancien tackle, j'arrive pas à dire son nom, donc je veux dire l'ancien tackle des Bengals, Andrew, qui est aussi monstrueux, qui protège bien Jared Goff. D'ailleurs, un des experts en a déjà parlé. Donc voilà, on a une vraie dynamique en attaque. Et c'est ce qui va faire la différence avec les contre Jacksonville Jaguars, parce que Jacksonville Jaguars ont aussi une nouvelle dynamique en attaque. Mais l'attaque aérienne est moins bonne. Blake Bortles fait moins d'erreurs, il fait moins d'interceptions, mais il n'est pas assez transcendant. Avec la, sachant que Allen Robinson a vraiment, je crois qu'il est out saison. Alors, je suis pas sûr du tout, mais je crois qu'il est out pendant un moment. Mais je crois qu'il est out saison, donc c'est le ressort numéro un des Jacksonville Jaguars, tout simplement. Voilà, quoi, c'est assez compliqué à la passe. Ils ont vraiment du mal. Mais par contre, au sol, c'est vraiment aussi une nouvelle révélation. On a, le rookie, Leonard Fournette, qui est juste extrême. La semaine dernière, il a fait plus de 180 yards de touchdown. Loin de 90 yards face aux Pittsburgh Steelers. Et on a surtout la défense. Alors, la défense des Jaguars qui est monstrueuse contre la passe. Une des meilleures dans la NFL. Et la semaine dernière, face à Roethlisberger, ils ont réussi à intercepter 5 fois. Ce qui est énorme. C'est, je crois que c'est le plus haut de sa carrière. C'est la première fois que Ben Roethlisberger lance 5 interceptions. On a un énorme pass rush avec Calais Campbell, Yannick Ngakoue, Dante Flower et Malik Jackson surtout. On a vraiment une très grosse défense, mais une très mauvaise défense contre la course. Je crois que c'est une des pires de la NFL, voire la pire. Les Rams aussi sont dans le même cas. Donc moi, je pense que les deux quand ils vont voir ce qu'il faut, je pense que les deux équipes vont miser sur leur jeu au sol, parce que les deux équipes ont une très mauvaise défense contre la course. Et les Rams sont moins bons, par contre, contre la passe. Ils sont 14e, si je ne m'abuse, contre la passe, contrairement aux Jaguars qui sont plus hauts. Mais je vois quand même les Rams gagnants, parce que justement, ils ont une attaque plus explosif, quand même, que ce soit la course, soit la passe. Ils ont un bon management, ils ont quand même une bonne défense. Et je trouve l'attaque des Jaguars plus fragile. On peut voir que face à des défenses qui sont pas trop mauvaises, par exemple, ils auraient eu deux défaites à cause du jeu au sol face aux Tennessee Titans et face aux Jets. Voilà. Contre les Jets, ils ont pris plus de 300 yards. C'était plus que ce qu'ils ont, presque 300 yards au sol, c'est plus que ce qu'ils ont pris depuis le début de la saison, c'est plus de yards que les Jets ont fait durant toute la saison. Ils ont fait plus de la moitié face aux Jaguars. En attendant, de l'autre côté, on a aussi une défense pas oufissime, mais quand même un peu plus fixe, mais surtout une meilleure attaque. Donc pour moi, les Rams ont gagné ce match-là, avec un très gros score. J'aurais peut-être pu dire Rams-Jaguars, mais ça va se jouer à 35-42, quoi. C'est vraiment la battle des offenses.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Scooby. Eh bien, écoute, va te pochetronner avec tes amis alcooliques. Qu'est-ce que je te dis, hein?
Moi, je ne bois pas, mais.
Ouais, la légende.
Je vais venir parce que je devais voir quelqu'un. Mais finalement, c'est mal fait. Mais là, je vais faire autre chose. T'inquiète pas.
Quoi? Allô?
Ouais, je suis toujours là. Hein. J'ai
la phrase. Ok. Bon, bah, écoute, très bien. À la semaine prochaine. Puis bonne sortie.
Ciao.
On revient. PronoNFL.com. C'est beau, ça, c'est joli, joli, le breakout album des TLC. Ouais, j'ai fait le vide-grenier ce week-end. Ok, j'ai acheté des albums à 50 centimes encore. Rémi est en Belgique, il ne connaît pas TLC, lui.
Salut, bah écoute, non, figure-toi.
T'as raison, je dis ça comme une blague, tu connais pas TLC.
Si.
Oh, mais tu m'as fait peur. Bonsoir Rémi.
Surfeur, tu sais. Hein.
Comment est-ce qu'il va en Belgique?
Ça va plutôt bien, et en plus on a du soleil, figure-toi. On a eu du soleil aujourd'hui. Donc.
Ah bah nous on en a eu toute la semaine, ça fait deux semaines qu'il y a
du soleil. Oh, mais quelle chance.
Voilà. Et je tenais à faire un petit teasing, parce que ça se fait en radiophonie des parfois. Teasing, c'est quand tu parles d'un truc que tu vas dire après pour que les mecs continuent à écouter.
Ouais, voilà, c'est ça.
Là, je viens de tomber sur les salaires annuels prévus pour le comité d'organisation, pour les deux mecs à la tête du comité d'organisation des JO. Ça fait mal aux couilles.
Ouais, ils vont se faire plaisir. Ils vont se faire plaisir.
Non, ils vont gagner plus en un mois que ce que moi, il y a des années, j'ai gagné plus en une année. Voilà, ça, enfin, c'est assez. Le chiffre annuel est assez violent. Et vous entendrez ça tout à l'heure. Voilà. Rémi, le fil rouge, quelle équipe marquera le plus de TD cette semaine?
Je mise Falcons.
Falcons, Atlanta. Très bien. Eh bien, écoute, on t'écoute pour ton match.
Ben, je vais encore parler du match de ce soir. Donc, le match du jeudi, c'est le match entre les Eagles et les Panthers. C'est un match très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un match entre deux équipes qui en sont à 4 victoires pour une seule défaite. Ils sont en tête de la NFC. Donc, c'est à suivre de près. C'est un beau petit duel en vue. C'est peut-être pas les équipes qu'on suit de plus près. Il y a les Packers dont on parle beaucoup plus qui en sont au même stade. Et les Falcons également. Mais donc, moi, je voulais parler de ces deux équipes parce que, tout simplement, elles sont discrètes, mais en attendant, elles font des résultats. Et je pense que ça peut être intéressant quand on voit que les Panthers sont quand même venus à bout des Patriots et des Lions lors des derniers matchs. Les Eagles, quant à eux, ils ont subi leur seule défaite face aux Chiefs. Les Chiefs sont invaincus, donc c'est quand même assez honorable. Et c'est vrai qu'ils ont eu des matchs gagnés un petit peu à l'arrache face aux Giants, mais bon, c'est un fameux duel de division. Et face aux Chargers, ça arrive à tout le monde. Mais leur dernier match, c'était quand même extrêmement convaincant. Ils m'ont vachement impressionné la semaine dernière face aux Cards, et ils l'ont emporté 34-7. Pour en arriver à ce bilan de 4-1, les Eagles ont compté sur un Carson Wentz qui est vraiment, vraiment chirurgical en troisième tentative. J'ai lu qu'il était premier dans plusieurs catégories, que ce soit en yard en troisième tentative, en passer rating, il est quasiment à 140 en troisième down. Et le pourcentage de conversion, les Eagles sont premiers tout simplement. Ils sont en plus de 55% de conversion en troisième tentative. Blount fonctionne très bien, n'en déplaise aux Patriots. Il a plus de 5,8 yards par tentative et il a 56 portées, ce qui est quand même assez impressionnant. Wentz s'appuie énormément sur son tight end, Zach Ertz. Il y aura un petit duel intéressant à suivre face au linebacker des Panthers, notamment Kikli. Je pense qu'il faudra regarder ça de près. Au niveau des receveurs, il y a Alshon Jeffrey qui fait très mal. Et qui en a 20 réceptions déjà cette saison. Ils sont top 10 dans toutes les catégories principales de l'attaque. Et en face, justement, y a une équipe qui est top 10 dans toutes les catégories défensives. C'est les Panthers. Les Panthers, ils ont déjà 17 sacks cette saison. Et il y a une stat qui m'impressionne encore, c'est Julius Peppers, qui a 37 ans, je le rappelle, et qui en est déjà à 5,5 sacks, rien que ça. Donc je pense que la grosse clé du match, ça va être ça. Ça va être la résistance de la O-line des Eagles. La O-line des Eagles qui est quand même très impressionnante cette année. Face à ce pass rush qui fait mal. Je pense que celui qui gagnera ce match-up gagnera le match. Et pour moi, ce sera roulement de tambour, les Eagles. Pour tous ceux qui veulent faire des paris, je vous invite à parier sur les Panthers parce que chaque fois que je dis quelque chose, l'inverse se passe. Mais ma petite pièce va sur les Eagles malgré tout. Offensivement, ils sont là. Ils ont un running game qui est très correct. Leur passing game est extrêmement acceptable aussi. Wentz fait peu d'erreurs. Il a peu d'interceptions. En face, de toute façon, c'est une bonne défense, mais c'est pas une équipe qui intercepte. D'ailleurs, les Panthers n'ont qu'une seule interception cette année. Et c'est l'œuvre de Kikli. Kikli qui ne m'impressionne pas cette année aussi. Je pense qu'il a pas encore trouvé son rythme. Quand ce sera le cas, ça risque de faire très mal. C'est vrai qu'il a déjà, il a en tête au niveau des placards pour son équipe, mais bon, ça, c'est normal. Au niveau offensif, je pense que ce qui manque beaucoup aux Panthers, c'est un vrai running game qui est pas du tout installé. Il y a McCaffrey qui est là, qui est très présent, mais il est plus présent dans le passing game. D'ailleurs, c'est lui qui domine au niveau des réceptions avec 27 réceptions pour 237 yards. Il compte beaucoup sur Funchess, qui est un receveur qui n'est pas très impressionnant, mais en attendant, qui sort des stats cette année. Et il y a Calvin Benjamin qui loupe quand même certains matchs pour blessure, donc qui est assez inconstant à ce niveau-là. Son rôle risque d'être important ce soir encore. Mais voilà, je pense quand même que les Eagles peuvent trouver la solution. Ce serait peut-être une manière de montrer à la NFL qu'ils sont là, qu'ils sont présents, ils sont plutôt bons, ils prendraient la tête de la NFC. Et c'est à eux d'être convaincants maintenant, de répondre présent. La O-line devra faire le boulot, elle l'a toujours fait. Ils ont quand même joué contre des solides équipes défensives, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et mais ça risque d'être un match très très intéressant. Je pense que c'est un des matchs qui est sans doute le plus difficile à prédire, parce que c'est très ouvert, c'est chez les Panthers. Voilà, donc mon pronostic va chez les Eagles. C'est un match, à mon avis, une victoire assez serrée. Mais on va avoir du spectacle avec deux quarterbacks qui sont en grande forme. Newton, on a critiqué au début de saison, mais en attendant, sur les deux derniers matchs, c'est lui qui a le meilleur QB rating. C'est vrai que c'était contre les Patriots, mais après, c'était quand même contre les Lions qui font un solide début de saison. Donc voilà. Pronostic va vers les Eagles.
Youhou. Attends, pourquoi je m'entends pas, hein? J'ai appuyé sur un bouton. Merci beaucoup, Rémi.
20h14
pile. Tu peux repartir à tes affaires et je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, et d'ici là, on retrouve les infos sur footballamericain.com, n'hésitez pas.
Oh, les infos. Tu sais, footballamericain.com, puisque depuis que Pierre-François Flores est parti en retraite, c'est plus pareil. Hein.
Ah oui, voilà, mais j'essaie de reprendre le flambeau.
Ouais, mais tu vois, c'est footballamericain.be, toi, c'est pas pareil. Bon, allez, à la semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine, bonne soirée.
Au milieu du refrain, c'est dégueulasse, mais c'est aussi ça. Radio DTC, en direct d'Aix-en-Provence.
Yes.
J'ai lu un truc. Aix-en-Provence, ils devaient pas accueillir la finale pendant 3 ans.
Ouais, c'est ça. Pourquoi ça a changé?
Je sais pas. J'ai vu un truc passer. J'ai l'impression que c'était plus qu'ils cherchaient l'endroit pour la finale cette année. Mais j'ai dû me tromper.
Ah, parce que c'était. On va pas révéler des secrets, mais effectivement, on avait bien la finale pour 3 ans. Mais étant donné que le manager du club est parti pour des raisons personnelles, familiales, qui sont des vraies raisons, et donc du coup, comme c'est lui qui chapeautait un peu la chose, du côté des Argos, on se demande si elle va avoir la personne qui va le remplacer ou pas pour faire les 2 prochaines éditions. Donc c'est peut-être pour ça que t'as vu passer quelque chose.
Je sais plus, après parfois non, je rêve de trucs en même temps, donc je sais plus très bien ce qui est la réalité ou pas. C'est dur, ma vie, quand même. Coach Gab, donc du côté d'Aix-en-Provence, comment se passe cette rentrée chez les Argos?
La rentrée chez les Argos, on parle avec ou sans langue de bois? J'ai oublié.
Comment?
On parle avec ou sans langue de bois?
Oh, ici, tu fais un peu comme tu veux, mais on préfère la vérité ici. Hein.
Le club a connu pas mal de changements à l'intersaison, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon parce que des fois les changements sont...
C'est-à-dire qu'il faudra du temps d'adaptation.
Peut-être. Après, on a mis des gens qui sont quand même là depuis des années. Je pense au head coach qui est quand même Julien Granier, que beaucoup de gens dans le monde du football américain connaissent, puisqu'il a déjà joué aux Argonautes pendant plus de 10 ans, si c'est pas 20. Et puis, il a aussi été entraîneur en équipe de France pour les receveurs. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément de bouteilles, qui est issu du club, et il reprend un petit peu les rênes. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de flottement. Souvent, c'est le cas. Moi, je suis passé par plusieurs clubs, mais on peut dire qu'à Aix, c'est un peu devenu une sorte d'ADN un peu depuis une dizaine d'années. Tu sais comment dans le sud on est assez tranquille et on y va vraiment tranquille. Et c'est vrai que les pré-saisons en général, c'est pas là où il y a une effervescence de dingue et que tout le monde se réveille un petit peu un mois ou deux avant la saison pour vraiment rentrer dans le vif du sujet.
Bah quand les terrasses se font grises, les mecs vont à l'entraînement quoi.
Ouais, c'est assez bizarre parce que là il fait beau et ce serait bon d'aller courir tous ensemble. Mais c'est plutôt quand on sent l'urgence arriver que les troupes se resserrent et que là en un mois ou deux ou un mois, même des fois ça suffit, comme les gars se connaissent depuis plusieurs années, les Américains arrivent et il suffit en un mois, en bossant 3-4 entraînements par semaine, d'intégrer les nouveaux systèmes assez rapidement et les gars ont l'habitude de jouer ensemble depuis des années. Ça.
Ouais, c'est ça, c'est quand le glaçon ne fond plus dans le pastis, tu vas à l'entraînement.
C'est exactement ça. J'adore ta définition. Exactement. T'as tout compris. C'est le moment d'y aller. Exactement.
Bref, coach Gab, je sais que tu as préparé pendant des heures et des heures pour ce soir. De quel match vas-tu nous parler?
Alors donc, je voulais vous parler des Rams face aux Jaguars, mais donc je me suis fait piquer le truc.
Ah non, tu t'es pas fait piquer le truc. Tu n'as pas réagi au message collectif sur lequel nous travaillons ensemble.
Oui, je travaillais, monsieur. Je mangeais des petits fours au nom de la mairie d'Aix-en-Provence, d'ailleurs. Bref.
Ah, c'est ça, monsieur Copine, avec les élites.
Non, pas les élites.
Est-ce que c'est comme à Tours où le maire fait des inaugurations avec des pin-up?
Malheureusement, non. Ça fait 10 ans que je l'ai fait, mais je les ai jamais vus passer, non. Non, non, mais quand même, on est, c'est très, très, très sympa, mais bon, très protocolaire, quoi. Ça reste du boulot.
Il faut bien que tu fais partie des citoyens qui ont l'occasion de remanger un peu de leurs impôts.
Exactement. Ça fait un peu partie. Surtout que là, le glaçon fondait toujours dans le pastis, si tu veux. Donc c'était carrément appréciable. Bref, parlons de football.
Allez, coach Gab, un peu sous. Vas-y.
Los Angeles, donc Jacksonville, ça a été pris. Pourtant, moi, je voulais juste dire un mot parce que j'adore cette équipe de Los Angeles depuis le début de la saison. C'est vraiment une équipe à suivre avec ce nouvel entraîneur. Ils ont perdu de pas beaucoup la semaine dernière, 10-16. C'était face aux Seahawks de Seattle, mais le match même défensif était magnifique. Les Jacksonville Jaguars, c'est la très belle équipe qui est emmenée par Tom Coughlin. Et justement, je vais vous parler de l'ancienne équipe de Tom Coughlin, qui est tout simplement les New Giants. Alors Coughlin, il réussit bien avec les Jacksonville Jaguars, qui sont à 3 victoires et 2 défaites, qui surprennent un petit peu tout le monde. Et donc son départ, et je dirais, pour faire un peu une transition, cette poigne de fer de Tom Coughlin, qui est vraiment un petit peu à l'ancienne, qui a gagné 2 Super Bowls, mais qui est un peu une sorte de grand-père, un peu militaire sur ses bords de touche. Du coup, McAdoo qui a repris les rênes du côté des New York Giants, il a beau soigner le look, raser la moustache et peigner les cheveux en arrière, ça marche pas trop au niveau du charisme. Les Giants sont...
Honnêtement, si c'était que le charisme, on s'en branlerait un peu.
Ah, ça compte, parce que tu le sais comme moi. Après, il y a les cerveaux, je suis bien d'accord que le head coach de McCarthy, le head coach de Green Bay, il a pas un charisme de dingue, et justement Ben McAdoo il vient de McCarthy, mais il aurait peut-être dû garder justement sa vieille moustache dégueulasse au Green Bay Packers, j'en sais rien, on s'en fout des apparences, mais toujours est-il qu'il s'est fait un look un peu new-yorkais, mais que la mayonnaise elle prend pas, et que les Giants regrettent un peu ce Tom Coughlin qui est parti à Jacksonville, qui avait cette poigne de fer, et on a l'impression que l'équipe, pour dire les choses comme elles sont, elle part un petit peu en couille quand même, puisque les Giants n'ont pas gagné un seul match depuis la fameuse histoire du Boat Gate, ou avant le match de playoff l'année dernière. Quelques receveurs stars avaient été faire une soirée sur un bateau du côté de Miami. Bon, en plus, ces receveurs se blessent aujourd'hui, et c'est un peu la descente aux enfers. Les New York Giants sont donc à 0 victoire pour 4 défaites. Le running back, qui normalement Perkins, l'ancien de UCLA, si je me trompe, tient pas vraiment la baraque, et c'est Darqua qui est beaucoup plus physique et qui a repris un petit peu le jeu de course. Eli Manning a énormément de mal à trouver ses cibles. Odell Beckham vient de se blesser, on l'a dit. Brandon Marshall, pareil, out for season. Evan Engram, c'était très bien de prendre un tight end au premier tour de draft, mais pour lancer des ballons, pour courir la balle, je pense que les Giants de New York ont un peu oublié la fondamentaux, à savoir la ligne offensive. La ligne offensive aujourd'hui de New York fait vraiment peur. Eli Manning se fait énormément saquer. Et en défense, ils ont aussi un petit peu de mal à trouver du leadership. Leur middle linebacker, la Goodson de mémoire, qui était un deuxième tour de draft, je crois, du côté de Clemson. Il est passé un peu à travers le début de saison, il n'avait pas les épaules assez larges, et derrière, ça flotte un petit peu, même si la défense arrive à tenir l'équipe à flot. De l'autre côté, ben, ils vont affronter les Broncos de Denver, qui, bon an, mal an, doivent être à 3 victoires cette année, avec Trevor Siemian, qui a surpris un petit peu tout le monde, qui est le quarterback titulaire, et donc là, qui va quand même se faire tester par la défense des Giants avec Jason Pierre-Paul, bien sûr, qui va mettre la pression. Mais une équipe des Broncos un peu en reconstruction, une défense moins présente, moins agressive que par le passé. Mais je pense que les Broncos, surtout à Denver, devraient l'emporter. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être la réaction ou non des Giants. Parce qu'à 0 victoire et 5 défaites, et on connaît les ambitions d'une ville comme New York, s'ils perdent encore cette semaine et qu'ils sont à 0-6, personnellement, je ne vois pas comment notre ami McAdoo, aussi sympathique et bon coordinateur peut-être il était du côté des Packers, mais pourrait garder sa tête en tant qu'entraîneur principal aux New York Giants. Donc un match plus que couperé pour les Giants et un match qui devrait bien se passer du côté de Denver pour les Broncos, à surveiller peut-être la réaction des Giants qui pourrait un petit peu surprendre tout le monde. Voilà.
Eh bien écoute, merci beaucoup.
Eh bien, écoute, merci à toi.
Voilà, bonne soirée. Tu fais ça jeudi prochain, petit four à la région. Comment ça se passe?
Non, jeudi prochain, je suis nickel, pas de problème, rien de.
Ah, excuse-moi, j'ai oublié le fil rouge. Le fil rouge, c'est quelle équipe marquera le plus de TD cette semaine?
Quoi que tu es en train de me demander, jeudi prochain, je sais plus. Alors, quelle équipe marquera le plus de TD cette semaine? Ouais, je pense que tout le monde a dû dire un peu New England qui vont un peu étrangler les New York Jets.
T'avais qu'à écouter.
Ouais, va y avoir ça, ouais. Je dirais New England Patriots, peut-être.
Eh bien, tu es le premier. Voilà, tu vois, mauvaise langue.
Yes, ça va, nickel.
Voilà. Mais écoute, bonne soirée à toi.
Bah pareil, je te fais des grosses bises et je te dis bon week-end, bonne semaine NFL.
Bah dommage, je serai avec des ex-ois, tiens.
Bon.
Et ouais.
C'est avec qui?
Ah, des chanteurs ex-ois, qui sont à Paris, qui chantent.
D'accord, voilà, ça va.
Je te raconterai.
Bon glaçon dans le pastis.
À plus tard, ciao.
Yes, bis, ciao.
Shadow of death, 16 men on a dead man's chest. Your host is Eve, Mr. H.O.T. And I guess you get splashed with the tech. Nobody go till the guard say so. You got a second or more to run for the dough. Before I blow back off the map contact, you didn't know stack could get down like that.
And when I get that feeling, I can no longer slide. I can no longer run, no. And when I get that feeling,
excellente version de cette chanson chantée il y a 1200 ans au MTG Awards quand Texas a fait son duo avec Method Man sur scène. Personne s'y attendait vraiment à ce duo là, mais ça donne un petit truc plutôt sympa. Yellow, elle jaune, comment ça va?
Salut, ça va, Régal ?
Écoute-moi, toujours bien. Alors, on a eu des millions d'auditeurs qui appelaient, ça. Où est passé Jaune ? Où est passé Radio Ça ? J'ai pris pas mal d'insultes. Tout le monde était persuadé que je vous avais foutu dehors. Non, ce n'est pas le cas. Ils seront toujours les bienvenus. Mais ils ont décidé de partir vers d'autres aventures. Ils font leurs émissions sur une barque sur la Seine, maintenant, si j'ai bien compris. Je suis pas très sûr. Qu'est-ce qui se passe ?
Exactement, une émission qui sera enregistrée sur une période un peu moins fréquente, on va dire, que la période hebdomadaire de ces dernières années. Donc, voilà. A priori, la première est prévue dans les tout prochains jours. La semaine prochaine, si tout se passe bien, mais on a prolongé un petit peu les vacances d'été.
Génial. Fil rouge d'abord. Quelle équipe marquera le plus de TD cette semaine ?
Quelle équipe marquera le plus de TD cette semaine ? Alors je te cache pas que j'ai pas vu le fil rouge de l'émission. Donc
c'est pas grave, il y a des gens qui savent, t'inquiète pas, t'es pas le moins bien loti.
Ah, je suis ouais, ça me rassure pas non plus à 100%. Attends, j'essaie de refaire rapidement les affiches dans ma tête. Tac. Allez, Atlanta, allez, soyons
fous. Original. Alors, et de quel match vas-tu nous parler ce soir ?
Je vais parler de la confrontation, j'ai l'air du choc, mais oui, en effet, c'est un duel haletant, en tout cas, selon moi, qui va opposer les Minnesota Vikings aux Green Bay Packers au niveau de la NFC Nord.
Ah, le Bowl du Nord.
Exactement.
Le Nordic Bowl. Eh bien, écoute, on t'écoute, voilà.
Ouais, alors c'est ce que j'allais dire, en fait, donc on a deux équipes qui ont actuellement un assez bon bilan, mine de rien, depuis le début de la saison. En l'occurrence, 3 victoires et 2 défaites, mais moi ne me fait pas défaut. Et on a donc cette lutte au sommet de la NFC Nord, puisque les deux équipes sont au coude à coude avec les Detroit Lions. Alors on a une équipe de Green Bay qui reste sur une victoire assez convaincante hein, à l'extérieur sur le terrain de Dallas. D'ailleurs, je rectifie, hein, Green Bay est à 4-1. C'est pour ça que j'avais un petit doute. À raison. Donc Green Bay qui reste sur une belle victoire du côté de Dallas avec notamment un Aaron Rodgers des grands jours. Le truc sur cette rencontre-là, c'est que j'attends de voir ce qu'il est capable de donner contre une défense de Minnesota qui est souvent au niveau, qui est souvent capable de mettre la pression sur le quarterback et qui a surtout un backfield défensif capable de mettre en difficulté les receveurs adverses, notamment Xavier Rhodes, qui est sans doute un des cornerbacks les plus sous-cotés de la ligue. Et donc c'est à ce niveau-là que ça m'intrigue un petit peu. On sait que au niveau du run-stop, ça posera pas trop de problèmes normalement à Minnesota, en tout cas contre ce backfield offensif de Green Bay. Après, on a vu qu'il y a eu beaucoup de surprises cette saison, et on est peut-être, ce sera peut-être pas la dernière ce week-end. Mais en tout cas, voilà, c'est cette défense de Minnesota qui, pour moi, peut donner un petit peu le ton, peut placer un petit peu le curseur de cette rencontre, parce que quand je vois le niveau de la défense de Green Bay de l'autre côté, qui certes aura l'avantage de jouer contre, a priori, un duo de backup, en l'occurrence Case Keenum en quarterback et Jerick McKinnon en running back, je suis pas totalement rassuré. Cette attaque de Minnesota, elle est loin d'être flamboyante, notamment en raison des joueurs qui composent donc les postes dont je parlais. Maintenant, il y a une ligne offensive qui est clairement meilleure que l'année dernière. Faut dire qu'il y a beaucoup moins de blessés également. Il y a un duo de receveurs qui est assez explosif avec Stéphane Diggs et Adam Thielen. Donc, mine de rien, il y a possibilité d'enquiquiner cette défense de Green Bay qui me rassure pas à 100%, qui avait largement pris le, notamment sur le terrain des Falcons en début d'année. Qui a pris 27 points à Cincinnati, qu'on a repris 31 ce week-end à Dallas. Donc voilà, il n'y a pas non plus un changement drastique au niveau de cette défense des Packers. Et je me dis que Minnesota, un petit peu en jouant à la manière de son Monday Night du côté de Chicago, peut, en concédant relativement peu de points, prendre le dessus sur Green Bay. Ce sera un match, quoi qu'il arrive, assez accroché de bout en bout. Mais voilà, d'un point de vue défensif, je vois bien Minnesota forcer 2-3 turnovers du côté de Green Bay et du coup empocher cette confrontation NFC Nord pour revenir à égalité avec Green Bay.
Eh bien écoute, merci beaucoup Hilo. On te dit à la semaine prochaine pour peut-être la date du prochain Radio Ça. Ça va être génial ça.
ça se marche. On fait comme ça.
Moi, j'attends ça avec grande, grande impatience. Ah oui, et je t'attendais, puisque j'avais quand même une nouvelle annoncée ce soir, puisque t'as rien écouté ce qui s'est passé. Je viens de tomber sur le salaire annuel prévu pour les... c'est quoi leur poste? Les présidents du comité d'organisation des JO, donc nos impôts, d'accord?
Ouais.
Ok. Salaire annuel pour Tony Estanguet et Étienne Taubois. Ok. Allez, dis un chiffre pour une année de taf, là.
Pour une année de taf, un petit 40 000.
Eh, c'est pas loin, sauf que ça, c'est plus par mois. 452 000.
Ah, c'est pas
mal. Ça fait un peu mal aux couilles quand même, non? Enfin, y a que moi qui ai mal aux... Parce que moi, tu vois, surtout la droite, là, ça me fait un peu mal à la burne, là, l'histoire, là.
Attends, t'es sûr que c'est le salaire annuel ou c'est le salaire...
Annuel, ils savent pas si c'est... La source, c'est pas si c'est brut ou net. Bon, quand même, tu vois.
Ouais, même si c'est brut, ça va, quoi.
Ouais, c'est... J'ai compté, en brut, ça fait du 37 000 par mois, à peu près, tu vois. Il y a des années, j'ai gagné moins que ça.
D'accord, écoute, c'est beau.
Mais bon, attends, tout le monde gagne pas autant que ça. Hein. Si tu prends juste le directeur général, lui, il prend que 383 000, tu vois.
Oh, le petit joueur.
Faut pas déconner, quoi, tu vois. Ah, mais bon, ça, c'est parce qu'ils vont être obligés de vivre sur la... Tu sais, on a gagné les JO, face à personne, apparemment. Mais c'est parce qu'ils sont obligés de vivre sur leur prime de victoire. Les primes de victoire, pour les gens qui ont bossé là-dessus, ils ont pris entre 4 500 et 34 500 euros. C'est sympa, ça, pour une soixantaine de personnes.
Ouais, ouais, non, mais on est d'accord, mais... On ne regarde pas la dépense, visiblement, au niveau de ce conseil organisateur, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà eu des histoires concernant leur déplacement au Pérou, donc ça ne me surprend qu'à moitié ce que tu me dis, Rick.
Mais moi, je vais peut-être faire ça, finalement. C'est bien organiser les JO. En fait, j'étais contre les JO, mais si je peux avoir un taf à 452 000 par an, je le fais un mois, je ne fais pas chier après. Bref.
Oui, le ratio serait intéressant. Si t'as une place, tu me préviens. Hein,
C'est ça. Et c'est le premier stage qui est payé 10 000 par mois, quoi. Ton stagiaire, il roule en BM, quoi. Burk. Voilà. Merci beaucoup, Yellow. Bonne soirée et à la semaine prochaine.
À toi aussi, ciao, Rickal.
C'est dur être bébé.
Yeah.
Il a grandi, Jordi. Il s'appelle Jonathan maintenant. Oui, Jordi, Jonathan. C'est normal. Joe, fan de Foot US, avec nous. Bonsoir, Jonathan.
Salut, salut, ça va?
Ouais. Bon, la blague sur Jordi, je voulais la faire à Olivier Rival, mais cet enculé, il a pas répondu au téléphone. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Le fil rouge. Mon cher Joe, quelle équipe marquera le plus de TD cette semaine?
Allez, je vais dire les Rams.
Ah ouais, t'es un ouf, toi. Attends, ramasse. Ok, very good. Eh bien, écoute, nous t'écoutons pour ton match de ce soir, mon ami.
Alors, moi, pour le match de ce soir, je vais parler du match qui clôturera cette week 6 entre les Colts et les Titans, donc match interconférence. Ce sera le premier match interconférence pour les Colts. Les Titans, ce sera leur troisième. Pour l'instant, à l'intérieur de la conférence, sur les deux matchs que les Titans ont joué, ils en ont gagné un, ils en ont perdu un, donc c'est mitigé. Les deux équipes sont à 2 victoires et 3 défaites depuis le début de la saison. Et là, je pense que le match, ça va être un peu journée porte ouverte. Pas forcément sur le nombre de touchdowns marqués, mais ça va être sur le nombre de yards que vont encaisser les défenses. D'un côté, chez les Colts, c'est vraiment porte ouverte, c'est le cas de le dire. Ils sont quasiment à 4 encaissé par match, ça fait la 31e défense de la NFL. La défense qui encaisse le plus de yards par match, selon les stats NFL, c'est les New England Patriots. De l'autre côté, c'est 345 yards par match encaissés pour les Titans, qui les classent 21e. Les deux équipes ont déjà encaissé quasiment plus de 150 points, 159 pour les Colts et 142 pour les Titans. Ça marque difficilement quand même pour les deux équipes, surtout on va dire à la passe. En plus, en week 4, Mariota, le QB des Titans, s'est blessé. Il n'a pas joué pour le match de week 5. Il a été remplacé par Matt Cassel. J'ai vu une conf de presse aujourd'hui de Mariota qui disait espérer pouvoir être réaligné sur le match contre les Colts. En face, il y a Jacoby Brissett, bon, qui continue à faire son taf, mais il est franchement pas aidé par sa ligne offensive, les Colts ont déjà encaissé 18 sacks sur la saison. L'attaque à la course pour les deux équipes, ça avance difficilement pour les Colts, ça va mieux pour les Titans. La passe, clairement, c'est pas encore ça du côté des deux équipes, hein, on en est loin. Les Titans, c'est un peu plus de 900 yards à la passe, et les Colts, c'est un peu plus de 1000 yards à la passe. Ils sont dans les 12 dernières équipes qui avancent le plus à la passe. Et la défense, comme j'ai dit, c'est un peu journée porte ouverte, que ce soit aussi bien à la course contre la passe, surtout à la passe pour les Colts. Et les joueurs phares des deux équipes, bah, dépendent un peu de comment joue leur équipe. Je vois DeMarco Murray, il peut faire un très très bon match si son équipe est bien dans le match et que généralement il gagne la partie, comme il peut faire un match complètement exécrable et se retrouver en difficulté comme on a pu le voir en week 4. Du coup, au final, j'ai pronostiqué victoire des Colts, mais pour moi, il va y avoir un petit factory, c'est si Marcus Mariota est aligné dans le match, on ne sait pas encore qui va être le QB starter, donc je surveillerai ça lundi, je risque de changer mon pronostic.
Ça a le mérite d'être clair, et je suis en train de me dire, putain, mais attends, j'ai un doute, je sais pas si j'ai rentré mes pronos, putain.
Non, tu n'as pas rentré.
En même temps, je crois que j'ai fait un truc dégueulasse la semaine dernière aussi. Attends, les experts DTC, je suis sur Prono NFL, putain, j'ai rien mis à jour. Oh, je mériterais d'être fouetté, moi, tiens. Ah oui, il y a que moi, il manque que moi. Bon, bah, écoute, on va s'occuper de ça ce soir, tiens. Merci beaucoup, mon cher Joe. Fan de Foot US au taquet, il y a des saisons qui ont repris là, à suivre.
Bah, il y a l'élite, la D2 et la D3 qui sont tombés, les calendriers, donc là, courant du Mans, on va les mettre sur le site. Et c'est surtout pas mal d'actu en ce moment, vu que toutes les équipes commencent à présenter un peu les transferts qu'ils ont réalisés durant l'intersaison. Donc nous, on suit tout ça et on publie ça sur le blog pour que tout le monde soit au courant.
Génial. Il faut aller sur Fan de Foot US et faire la donation Tipeee, tout ça, pour qu'il n'y ait pas que moi, Yellow, qui finance sur ce site. Elle est pas mal, celle-là. Bon, je t'embrasse, Joe, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Rico.
cheval. Ils descendent la montagne à cheval. Ils descendent la montagne. Ils descendent la montagne. Ils descendent la montagne à cheval. Sidi ya ya youpi youpi ya. Sidi ya ya youpi youpi ya. Sidi ya ya youpi youpi ya.
Voilà, mais entendu, parce que mon micro est ouvert, la diva nous fait, nous daigne enfin de nous honorer de sa présence.
Ouais, c'est ça.
Parce que tu sais ce qui se passe quand tu décroches pas ton téléphone?
Eh bien, je ne sais pas.
Eh ben, les gens, ils se cognent 2 minutes 30 de Jordi plutôt que 45 secondes. Et Jordi, 45 secondes, c'est une blague, 2 minutes 30, c'est une punition.
Ah ouais, là, t'es pas gentil avec.
Non, c'est toi qui es pas gentil.
Ah ouais, non, mais ouais.
Bah oui, voilà, tu vois, c'est de ta faute. Et en plus, tu m'as empêché de faire une blague. En plus, voilà, ça m'a pas rendu heureux, ça. Bref. Voilà. Tout ça étant dit. Du coup, t'écoutais pas l'émission, toi, en plus.
Bah non, j'étais en train de manger, là, tu vois. J'ai pas répondu parce que j'étais en train de remplir la vaisselle, tu vois. C'est un truc super fun.
Ah ouais, est-ce que ça n'attend pas, quoi?
Ah ben, bien sûr que non.
Bon, et ben, du coup, je vais t'envoyer le lien de ce dont j'ai parlé. Je pense que ton ami Kevin va adorer. Le fil rouge, tout d'abord, quelle équipe marquera le plus de TD cette semaine?
Je sais pas, on va dire les Packers, tiens.
Ouais, t'es comme acte, Packers direct. Ok. Ouais,
comme ça, paf.
Et maintenant?
Tellement bon de les voir le dimanche dernier, là, que c'était très bien.
Moi, ce que je sais, c'est que dimanche dernier, on va nous rendre du fric. C'est à toi, Olivier.
Alors, c'est à moi qui parle de Détroit qui va jouer à la Nouvelle-Orléans. Donc, des équipes de milieu de tableau, parce que Détroit est à 3-2. Nouvelle-Orléans vient de faire sa semaine de repos, est à 2 partout. Donc, ils sont tout frais, tout beau. La Nouvelle-Orléans qui semble sortir un tout petit peu du marasme de ces dernières saisons. Ils ont pas mal rajeuni la défense et ça commence à tourner pas trop mal. En plus, leur attaque, Breeze, ils continuent à lancer pas trop mal. Et ils sont assez efficaces parce que c'est la seule équipe de la NFL qui a pas perdu de ballon cette année. Donc, ils font pas de conneries, on va dire. Et puis, ils ont un petit running back rookie qui vient de Tennessee, là, qui s'appelle Kamara, qui fait tellement bien l'affaire qu'ils ont décidé d'envoyer Adrian Peterson qui avait un peu perdu ses jambes, ils l'ont envoyé à Arizona cette semaine, donc ça devrait permettre aux petits camarades d'avoir encore plus de temps de jeu et ça peut être intéressant de le voir jouer contre la défense de Détroit qui n'est pas forcément la meilleure de la ligue et qui en plus va être obligé de se priver de N'Gata qui est quand même leur meilleur lineman défensif depuis pas mal de temps qui est apparemment out pour le reste de la saison après avoir été blessé la semaine dernière. Donc c'est un petit peu le problème de Détroit qui a sur le papier une équipe qui tient pas trop mal la route, qui se débrouille bien, mais qui accumule un peu les blessures. Donc il y a N'Gata, et puis il y a surtout Stafford, le QB, qui est toujours assez intéressant à suivre, mais qui est complètement boiteux là. Il a fait une fin de match un petit peu à la ramasse la semaine dernière, et donc on sait pas trop s'il va jouer. Il faut dire qu'il en prend un peu plein la gueule, parce qu'il a pris quand même 12 sacs sur les deux derniers matchs, donc... La ligne offensive de Détroit est pas forcément le point fort de l'équipe. Alors, seul point intéressant, si Stafford joue pas, ça nous permettra de découvrir le deuxième QB de Détroit, qui est en fait un deuxième année, qui a pas du tout joué l'année dernière, qui s'appelle Ruddock, que les fans de Michigan connaissent peut-être parce qu'il avait fait une saison pleine comme starter là-bas. Il a jamais joué en NFL. Peut-être que ça sera ses grands débuts à la Nouvelle-Orléans si Stafford n'est pas complètement opérationnel, ce qui risque d'être le cas. Pour finir, que vous dire, les trois derniers matchs, les trois dernières saisons ont été gagnés par les Lions. Mais là, franchement, le trend, le momentum, comme ils disent aux US, il est plutôt du côté des,
les Saints parce qu'ils ont une équipe qui est plutôt pas mal, qui est plutôt qui est en train de monter doucement en niveau, qui est plutôt sur un bon trend et en plus ils sont reposés, alors que Détroit, ils ont beau avoir fait que 5 matchs, ils ont l'air déjà d'être un petit peu fatigués. Donc moi je vais jouer plutôt la Nouvelle-Orléans à domicile dans un match qui est quand même théoriquement assez intéressant parce que c'est quand même deux équipes qui jouent beaucoup à la passe, ça devrait quand même être assez spectaculaire. Voilà.
Mais écoute, merci beaucoup Olivier. Alors tout d'abord, on n'a pas pu la semaine dernière à cause de soucis de Free, qui, bon, ma ligne a été écrasée, donc il n'y avait pas internet, pas de téléphone, c'était un peu triste. Mais il faut quand même noter qu'il y a 2 semaines, tu es arrivé solo en tête du site de Pronos NFL, des experts et de tout le monde. Avec un très très beau score dans une semaine pas facile, le 13/16, et qui te place, je viens de regarder, tu es en tête du site à ex aequo avec Mathieu Valette, un jeune mousquetaire. Donc voilà, vous êtes tous les deux à 51 bons pronostics sur 77, avec un petit ratio de 66.23, c'est pas dégueulasse.
Ah ouais, c'est pas trop mal, mais bon, c'est plutôt du bol quand même, hein, parce que...
Chut. T'es un expert, tu dis que c'est normal que c'était calculé et que les autres c'est des mauvais.
Ouais, non mais en fait j'ai un peu profité déjà de la bonne bon début de saison des Bills, puisque en fait par exemple la semaine où j'ai gagné, j'étais le seul de tout le site à jouer pour les Bills, donc.
Il y a pas de petit
pour tout le monde.
Chaque point compte pour te mettre devant les ceux qui ont que 50, tu vois.
Mais écoute, oui, non, il faut avoir un petit peu de chance à NFL parce qu'il y a quand même beaucoup.
Arrête.
Il te joue à pas grand chose.
Mais il est fou, ne l'écoutez pas.
Je trouve que cette saison est assez, comment dire, limpide. C'est-à-dire qu'il y a quand même, des équipes qui déçoivent pas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc,
Personne s'attendait trop à ce que les Patriots soient en semi-déroute quand même.
Oui, mais bon, les Patriots sont en semi-déroute, ils sont 3-2, quoi. Donc bon, la semi-déroute des Patriots.
C'est quand la dernière fois que c'était 3-2, quoi.
Donc quand ils seront 12-4 à la fin décembre, la semi-déroute, oui. On l'aura vite oublié.
Voilà. Et quand les Giants seront 10-5. Ouais, non, mais moi j'y crois pas celle-là. Merci beaucoup Olivier, je te souhaite une bonne semaine NFL et à la semaine prochaine. Quant à vous, allez tous remplir vos petits pronostics sur prononfl.com. Si vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr d'un match, bah regardez ce que dit votre expert préféré. Voilà, bonne soirée à